Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
En RDC, les experts du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et leurs homologues de l'Agence de coopération internationale du Japon réfléchissent sur l'élaboration d'un nouveau projet visant à mettre en œuvre le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. À en croire le site Financial Afrique qui cite la vice-présidente de la JICA, Kayashima Nobuko, le plan directeur en question sera financé par le gouvernement japonais à travers la JICA à hauteur d'un peu plus de 32 milliards de dollars américains à l'horizon 2040. La compagnie pétrolière française Total a signé un pacte de sécurité avec le gouvernement du Mozambique pour protéger un projet de gaz naturel de 20 milliards de dollars en cours de développement. C'est ce qu'annonce la compagnie ce lundi. Les forces de sécurité mozambicaines ont combattu une insurrection de bas niveau contre les milices soupçonnées d'avoir des liens avec l'État islamique dans le nord du pays, riche en gaz. Le projet de Total comprend le développement des champs de gaz naturel de Golfinho et Atum et la construction d'une usine de liquéfaction d'une capacité de 13,1 millions de tonnes par an.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Après la défaite, les incidents, 158 personnes ont été interpellées et 151 placées en garde à vue à Paris, dont 49 mineurs, après les incidents qui ont émaillé la soirée de la finale de la Ligue des Champions perdue par le PSG. Des heures ont opposé jusque dans la nuit les forces de l'ordre et des groupes de jeunes autour du Parc des Princes et de l'avenue des Champs-Élysées où des voitures ont été incendiées et des magasins vandalisés. Des agents des forces de l'ordre ont été blessés, 12 magasins attaqués, une quinzaine de véhicules dégradés, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier, à Lisbonne, le PSG d'Idrissa Gana Gueye restait sur le banc et d'Éric Maxime Choupo-Moting, entré en fin de rencontre, s'est incliné 1-0 en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich du germano-ivoirien Serge Gnabry. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le français Kingsley Coman, un transfuge du PSG.
Comme hier, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie au niveau du football. Après, en même temps, j'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris, c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas. Donc, il y a beaucoup de joie et un petit peu de tristesse.
Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich. En Côte d'Ivoire, après le courrier de la FIFA demandant le maintien de la commission électorale précédemment suspendue par la Fédération ivoirienne de football, cette dernière s'est réunie en comité exécutif d'urgence. La FIFA a ensuite annoncé, je cite, le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de la décision. La commission se réunira demain pour entériner toute décision nécessaire par un vote. Pour rappel, le processus de validation des candidatures par la commission électorale avait été bloqué par le secrétaire général de la commission qui a dénoncé des irrégularités et refusé de signer les documents. Les trois prétendants à la présidence de la FIFA, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo, sauront donc bientôt si leur candidature est validée ou non. L'élection est prévue pour le 5 septembre. Les patrons du football australien ont présenté leurs excuses à un ancien joueur aborigène victime de racisme pendant sa carrière dans les années 1970 et 1980. Après une interview de Robert Muir, dans cet entretien diffusé hier, l'ancien joueur de Saint-Kilda, 66 ans aujourd'hui, témoigne des humiliations qu'il a subies, insultes de ses adversaires, crachats de la foule et même des équipiers qui lui urinaient dessus. Depuis la fin de sa carrière, il a été sans abri pendant de longues périodes et a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Un supporter de Saint-Kilda a monté une cagnotte en ligne après la diffusion de l'interview qui a récolté plus de 60 000 euros.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour.
Au Mali, les émissaires ouest-africains ont repris les discussions avec la junte à Bamako. Confrontés à des protestations quant à la teneur de ces pourparlers, les militaires se sont empressés d'assurer que rien n'était décidé. Quelques instants avant de s'asseoir face à la délégation de haut niveau dépêchée par la CDAO, Bagessi Koura a joint notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
On peut dire que la délégation conduite par Goodluck Jonathan a commencé la matinée par une visite au niveau de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle qui est dirigée actuellement par Amadou Ousmane Touré. La délégation a eu des informations par rapport aux aspects juridiques du putsch qui s'est opéré au Mali, surtout la démission du président qui, avant même de démissionner, avait déjà dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est après que Goodluck Jonathan et les membres de sa délégation se sont rendus au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants. Hier, les discussions portaient uniquement sur le sort du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont l'élargissement avait été demandé par la CDAO. Mais malheureusement, les militaires ont posé des conditions. Il fallait une pause hier vers 21h30 afin que les deux parties se retrouvent ce matin à Bagadi.
Alors, il y a eu cette information qui a été démentie ce matin par la junte militaire qui concernait la transition qui devrait être majoritairement militaire et durer sur 3 ans. Qu'est-ce que vous en savez?
À mon avis, ce serait trop tôt de dire la durée de la transition, dans la mesure où même les militaires qui ont pris le pouvoir n'ont rencontré que d'ex-majorité présidentielle. Donc, il y a encore beaucoup de composantes de la société civile qui doivent être réussies par les militaires au pouvoir ici à Bamako. Il y a le gros lot, c'est les M5 RFA qui avaient déjà commencé la contestation, dont les militaires même se disent qu'ils ont parachevé. Et il y a la classe sociale, les leaders religieux, que ce soit chrétiens ou musulmans, mais il y a aussi la forte pression qui vient du monde social à travers les syndicats. Tous ces beaux mondes n'ont pas été jusqu'à présent reçus par les militaires, donc ça serait difficile de se prononcer sur la durée de la transition, étant donné qu'avant même l'arrivée de la CDAO, le porte-parole de la junte à la personne de colonel-major Ismaël Ouagé avait dit que les conditions, les contours de la transition seront déterminés par l'ensemble du peuple malien, chose qu'il a répétée ce matin avant le début des négociations avec la délégation de la CDAO.
L'imam Diko était présenté comme la force morale au niveau du groupe du M5 RFA. Il semble qu'il veut créer un comité national de médiation. Qu'est-ce que vous en savez?
En tout cas, il a fait le portrait robot lors du rassemblement du vendredi dernier. Il veut se faire assister par le président du Haut Conseil islamique, l'influent Ousmane Chérif Madani Aydra, qui aussi traîne du beau monde ici au Mali. Et il y a le shérif de Nioro Bouye, qui est déjà la personnalité morale aussi pour l'imam Diko. Et les 10 églises catholiques et protestantes doivent être avec lui. En tout cas, dans cette médiation, Diko veut faire la vraie médiation à la base, parce qu'il veut aller toucher les Maliens du plus près, en fait ça son boulot pendant la période transitoire. Mais il a dit Bagassi, Diko ne va pas s'asseoir et voit encore qu'il y aura la corruption au Mali, qu'il y aura de la gabegie, qu'il y aura des détournements des derniers du fonds public, etc.
C'était notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
De nombreuses réactions en République du Congo à la suite du décès ce lundi en France de l'ancien président Pascal Lissouba. Il est considéré comme le premier président élu démocratiquement au Congo, mais il a été déchu à la suite des violences militaires en 1997. Les détails à Brazzaville avec Arsène Séverin.
L'information a été confirmée à Brazzaville par un communiqué lu au siège de son parti UPADS. Sidouane Romaric Moukoukou, le responsable de la communication, en fait le résumé.
Nous venons de perdre un patriarche. C'est l'icône de la politique congolaise ayant marqué l'histoire du Congo pendant ces 60 dernières années. Pascal Lissouba, oui, président fondateur de l'UPADS, est parti.
Philippe Mbungundamba, maire de la ville de Kayi et cadre de l'UPADS.
C'est un jour noir pour moi, je vous l'avoue. Je suis meurtri au plus profond de moi-même. Je retiens de l'homme qu'il aurait fait du Congo la petite Suisse si on l'avait laissé travailler.
Beaucoup de témoignages irriguent le discours des acteurs politiques qui ont connu et travaillé avec Pascal Lissouba. Bonaventure Mbaya, son ministre, rappelle ici de vieux souvenirs.
Il a été mon professeur en première année à la faculté des sciences de l'université de Brazzaville. Et ensuite, j'ai été son ministre. Et nous avons été renversés par un coup d'État en 1997. Nous sommes retrouvés en exil avec lui.
Alors qu'il était à l'opposition, Clément Mirasa a été membre du gouvernement de Pascal Lissouba entre 1992 et 1993.
Lissouba laisse un cadeau terrible aux générations futures. C'est le contrat de partage de production au niveau de la production pétrolière. Et c'est peut-être tout ça la base de tout ce qu'il a connu comme malheur.
Touchée par la nouvelle, Claudine Munari, directrice de cabinet de Pascal Lissouba, exprime son regret.
Il a formé, il a inculqué dans nombre d'entre nous cette soif d'amour pour le pays et cet engagement à toujours dire nous sommes les acteurs de la construction de notre pays.
Jean-Jacques Yombi-Opango, dont le père a été premier ministre de Pascal Lissouba, regrette une entrée ratée du Congo dans l'histoire du monde.
Si le président Lissouba n'était pas entouré de certaines personnes qui l'ont induit en erreur, de grandes choses auraient pu être faites dans ce pays. Nous perdons un très grand monsieur.
Le porte-parole du gouvernement Thierry Mungala salue la mémoire d'un chef d'État et indique que l'État reste aux côtés de la famille Lissouba au cas où il était associé aux obsèques du disparu.
Chez nous, les Bantous, il y a un principe de base, quelles que soient les fonctions et les dignités occupées par le défunt, c'est à la famille biologique d'indiquer quelles sont ses volontés concernant donc la suite des événements et notamment les obsèques. Et je crois que l'État restera attentif à la position de la famille.
Connu comme l'un des premiers scientifiques du pays, Pascal Lissouba a été démocratiquement élu en 1992 alors que le pays faisait son entrée dans la démocratie. Son règne a été émaillé de plusieurs violences jusqu'en 1997 lorsqu'il a été débarqué par son prédécesseur Denis Sassou Nguesso au terme de 5 mois de guerre sanglante et fratricide. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d'une inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis le mois de janvier, a affirmé l'ONG Amnesty International, qui a recensé plus de 1100 villageois tués depuis le début de l'année. L'ONG dénonce l'inaction qualifiée de honteuse de l'État fédéral, des gouvernements locaux et des forces de sécurité qui échouent à prendre des mesures efficaces pour protéger les populations. Pour évoquer cette actualité, John Linden a joint Tunde Fatunde, professeur à l'Université d'État de Lagos au Nigeria.
Il y a deux facteurs qui vont tenir compte pour expliquer l'origine de cette tuerie qui n'est pas acceptable. Tout d'abord, le gouvernement central n'est pas parvenu à maîtriser les attaques incessantes du djihadisme, que ce soit Boko Haram ou Iswa. Malheureusement, les deux mouvements ont des collaborateurs au sein de l'armée. Le résultat, l'armée est devenue inefficace pour venir à bout à ces djihadistes. En plus, au sein du gouvernement, on soupçonne que de nombreux clés sont de mèche avec ces djihadistes.
Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2015, Muhammadu Buhari avait fait de la lutte contre l'insécurité son cheval de bataille. Jusqu'ici, il n'a pas réussi. S'agit-il d'une volonté politique ou tout simplement il n'a pas les moyens de sa politique?
Il a des moyens, mais sa volonté politique est ailleurs. Je m'explique. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Buhari voulait créer des conditions idéales pour que les peuples des autres parties de l'Afrique de l'Ouest viennent s'installer au Nigeria. C'est ainsi que ce peuple qui sont en réalité des mercenaires et des djihadistes armés, ont tenu la tâche facile pour mettre en pratique leurs intentions, c'est-à-dire s'installer au Nigeria, saisir des fermes, tuer des habitants locaux, et ainsi de suite. l'AI est devenu non seulement capable de venir devenir en quelque sorte collaborateur complice de l'intention de ces djihadistes. Voilà le problème. C'est ainsi qu'il a refusé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir jusqu'ici, de changer les commandants des forces armées. Parce que ces commandants des forces armées sont d'origine peuple et sont en collaboration étroite avec les djihadistes. Voilà la situation.
Alors, à votre avis, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ces tueries ou tout au moins éradiquer ces tueries dont Boko Haram semble être à l'origine?
Mais malheureusement, la situation, à mon avis, et c'est l'avis des observateurs avertis, c'est que tant que au sein du gouvernement Buhari, il existe des collaborateurs qui sont des mèches avec les djihadistes, la résolution de cette crise n'est pas pour demain. Et le problème, c'est que, enfin, non seulement c'est que, en soupçonnant que si ça continue ainsi, le pays risque de se démembrer.
Tunde Fatunde est professeur à l'Université d'État de Lagos au Nigeria. Le président américain Donald Trump a été investi ce lundi par le Parti républicain comme candidat à la présidentielle du 3 novembre. Les républicains se sont donné rendez-vous à Charlotte dans l'État de Caroline du Nord où se tient cette semaine une convention nationale réduite et virtuelle en raison de la pandémie. Caroline Presutti s'est entretenue avec des délégués en provenance de tout le pays avant la nomination de M. Trump. Le récit est d'Abdourahmane Dia.
Shirlene Ostrov sort avec prudence. C'est la première fois qu'elle se déplace hors de son état depuis la pandémie. Ostrov est la présidente du Parti républicain à Hawaï, un état contrôlé par les démocrates et où de sévères restrictions anti-Covid sont en vigueur.
Notre économie est décimée, nous n'avons aucun touriste, les restaurants sont fermés et les gens disent que ce n'est pas la voie, ce ne sera pas durable.
Il est également difficile d'être républicain dans l'État traditionnellement progressiste de l'Oregon, où Portland en est à son troisième mois de manifestation de Black Lives Matter. Bill Courier dit que le président a fait sa part pour essayer d'y mettre fin.
Quand il a proposé son aide avec des ressources fédérales à Portland pour venir à bout des émeutes et que le maire et le gouverneur l'ont pratiquement ignoré, les populations n'ont pas aimé ça, même ceux qui ne sont pas républicains.
Les démocrates ont dit la semaine dernière que les actions du président Trump avaient aggravé à la fois la pandémie et les manifestations sur les questions raciales. Les sondages nationaux indiquent que leur candidat à la présidence, Joe Biden, a maintenant une avance de 9 points. Mais parmi les républicains, Trump reste populaire. Parmi les Américains, son taux de popularité de 42% est en hausse d'un point en un an. Un délégué du Kansas, Mike Kuckerman, a déclaré que les démocrates n'avaient rien dit de nouveau lors de leur convention.
J'ai regardé une grande partie de ce que Biden a dit. C'était juste des attaques contre le président. Il ne nous a rien dit sur ce qu'il allait faire ou son administration ferait s'il était élu.
Biden a choisi la sénatrice de Californie, Kamala Harris, comme colistière. C'est la première femme noire et première femme américaine d'origine asiatique sur un ticket d'un grand parti. Mais la déléguée de Hawaï, Shirlene Ostrov, pense que cela ne sera pas suffisant pour convaincre les femmes.
Je ne suis pas pour la politique basée sur l'identité. Je suis évidemment une fille d'immigrant. J'ai servi dans l'armée. Je suis une femme de couleur. Rien de tout cela n'est important quand il s'agit de voter pour un candidat.
Les démocrates sont également présents à Charlotte pour essayer de faire changer d'avis certains. Mais ils n'y arriveront pas avec Tracy Hall.
Moi, faire ça, jamais. Je soutiens le président Trump. Je l'ai soutenu depuis 2016, début 2016. Je pense qu'il est la bonne personne pour nous faire avancer. Il n'y a aucune chance que je soutienne Joe Biden.
La sécurité autour de la salle des congrès est stricte. Ce lundi, seuls 6 délégués par État et territoire sont admis à l'intérieur. Et cela ne s'arrête pas là. Les 336 délégués sont invités à la Maison-Blanche jeudi pour suivre le discours d'acceptation du président Trump.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.
Thank you. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Colère à Niamey après le classement du Niger en zone rouge par Paris. Manifestation au Cameroun contre les violences en zone anglophone. Réunion des pays d'Afrique australe, la SADC exprime un timide soutien au Mozambique. Début de la convention démocrate virtuelle pour la première fois, Joe Biden doit officiellement annoncer jeudi sa candidature à la présidence. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et l'espace.